Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 18 janvier 2022. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Ça va durer des jours, peut-être des semaines. Plus d'un an après la disparition de Delphine Jubilard, des fouilles intensives ont été entreprises aux alentours de sa maison à Cagnac-les-Mines. Les gendarmes et les militaires ciblent notamment une ferme qui a brûlé il y a quelques mois. Cédric Jubilard aurait confié à un co-détenu que c'est là qu'il a enterré son épouse. Une confession que l'avocat des parties civiles, Philippe Pressec, a bien du mal à croire.
Sur cette fouille-là en particulier, on est sur les provocations, les rodomontades glauques de Cédric Jubilard qui, depuis le début, se moque de tout le monde.
Vous n'y croyez pas du tout à l'hypothèse de cette ferme où aurait été enterré Delphine ?
Et ce à quoi je ne crois pas, c'est à l'hypothèse selon laquelle Cédric Jubilard, rentré en détention provisoire, n'aurait rien eu de plus pressé que de se confier à un voisin de cellule dont il ne sait rien et à qui il aurait fait des révélations fracassantes. Alors que la première chose qu'on apprend quand on rentre en prison, c'est de ne pas parler à ses voisins de cellule.
L'avocat Philippe Pressec au micro RTL de Patrick Hisson.
Le protocole sanitaire à l'école continue de faire des vagues. C'est même une tempête pour Jean-Michel Blanquer.
Oui, nos confrères de Mediapart révèlent que le ministre de l'Éducation était en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé ce protocole aux Parisiens la veille de la rentrée. Le cabinet du ministre assure qu'il travaillait d'arrache-pied en liaison avec ses collaborateurs à Paris. Mais le mal est fait. Les appels à la démission se multiplient à gauche comme à droite. Et chez les profs, écoutez Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES.
Tout le monde a le droit de prendre des vacances, mais là, on était quand même dans un contexte très particulier. Et puis, il y a aujourd'hui des paroles qui résonnent étrangement. On se rappelle quand même que Jean-Michel Blanquer nous a dit qu'il voulait coller au plus près des réalités. On n'avait pas imaginé que coller au plus près de la réalité, c'était être à plusieurs milliers de kilomètres de la France. Le symbole est vraiment terrible en termes de désinvolture et de légèreté dans la gestion de la crise sanitaire.
Propos recueillis par Nicolas Fourouf. Avant même ces révélations, un nouvel appel à la grève avait été lancé pour jeudi dans les écoles, les collèges et les lycées. Les enseignants dénoncent le chaos créé par la gestion de la crise sanitaire. Éric Zemmour va faire appel de sa condamnation pour incitation à la haine raciale. La justice lui a infligé une amende de 10 000 euros pour ses propos sur les migrants mineurs. Un jugement idéologique et stupide selon lui. Il dénonce un procès politique. Réponse de Samuel Thomas de la Maison des Potes.
Commettre des incitations à la haine raciale, si c'est sanctionné par les tribunaux, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont simples d'esprit et qui sont prêts à commettre ces actes ignobles. Presque comme si Éric Zemmour était leur commanditaire. Vous avez vu tous les petits groupes d'extrême droite qui ont été jusqu'à passer à l'acte dans les meetings d'Éric Zemmour. Il y a un danger réel. Donc la gravité des incitations à la haine raciale, il faut la vivre comme ça.
Samuel Thomas avec Cindy Hubert. Drôle de campagne, hein, avec un candidat condamné, un ministre dans la tourmente. Mais est-ce qu'on parle politique dans les troquets ? De quoi parle-t-on d'ailleurs dans ces bars où on ne peut même plus boire son petit noir sur le comptoir ? Céline Landreau a mené l'enquête. Céline, en immersion au bar tabac de la gare de Sartrouville.
Oui, derrière son comptoir, protégé par une bâche plastique, Rabat recueille toute la journée les confidences des clients.
De tout, de rien. Covid, la misère, l'argent, tout ce qui se passe. Pourquoi tu me demandes mon passe ? Quand ça va s'arrêter ?
Vous imaginez que pour boire un café, on a besoin d'un vaccin maintenant ? Moi, j'ai même pas le droit d'être là. Je dois sortir dans le froid pour boire un café. Qu'est-ce qu'ils sont malades, ces gens ?
Ces gens comprenaient le gouvernement très décrié ici pour sa gestion de la crise.
Non, moi, je voterais pour le premier, en fait, qui se débarrassait de ce qui s'est passé avec cela. On m'en bat les couilles de savoir qui sera élu, tout ça. On débarrasse.
Pour faire chier tout le monde, je vais voter Le Pen, comme d'habitude. Et pourtant, mon copain, c'est un rebelle.
L'élection présidentielle n'enthousiasme personne dans le bar.
La place, elle est chaude, tout le monde la veut. C'est tout. Hein.
Où l'on s'inquiète beaucoup du pouvoir d'achat.
Il n'y a que l'argent dans la vie.
À la fin du mois, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste rien du tout.
Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de.
On a payé ses factures, tout ça. C'est un luxe maintenant de se payer seulement un petit restaurant, c'est un luxe. Ça vaut cher, c'est plus possible.
Et leur verre à la main, ses clients regardent de loin les images des candidats défiler sur l'écran de la télé du café.
Céline, en immersion. Céline Landreau, que vous retrouvez tous les soirs dans On défait le monde, c'est à 18h40 sur RTL. La France a franchi hier le cap symbolique des 100 000 morts du Covid à l'hôpital, mais la cinquième vague semble marquer le pas. Le nombre d'admissions en réanimation continue de baisser. Notez aussi l'effet passe vaccinal, plus de 300 000 premières doses hebdomadaires ces deux dernières semaines. Les ventes de tabac ont reculé de plus de 6% l'an dernier, en volume du moins, mais l'alcool, lui, coule à flot. Les ventes de cognac ont bondi de 30% sur un an, en valeur de 16% en volume. On est même au-delà du niveau d'avant-pandémie. Un succès porté par les jeunes, c'est ce qu'explique Alexandre Gabriel, le propriétaire de la Maison Ferrand.
Le cognac avait été considéré pendant quelques temps la boisson à papa, etc. Ça, c'est plus du tout d'actualité. Et on le voit notamment aux États-Unis, mais en Angleterre et même en France maintenant, cette tendance qui se lance de plus en plus, d'une dégustation à la maison où on va vouloir faire des cocktails, mais vraiment des cocktails de qualité, pas du tout les cocktails années 80 avec, qui étaient tout bleus avec un parasol dessus. Ça, c'est quelque chose de très encourageant pour le cognac et je suis heureux que ça se traduise dans les chiffres maintenant.
Propos recueillis pour RTL par Sébastien Rouxel.
Il est 7h35, c'est probablement la fin d'un mystère vieux de bientôt 80 années.
Oui, on sait peut-être enfin qui a dénoncé Anne Frank et sa famille aux nazis en 1944. Il s'agirait d'un notaire juif qui aurait agi pour sauver sa propre famille. C'est du moins ce qu'affirme un livre fondé sur l'enquête d'un ancien agent du FBI. Une thèse troublante pour Élie Corchia, le président du Consistoire central de France.
On sait qui a tué Anne Frank, c'est clair. On sait que c'est la barbarie nazie. Par contre, effectivement, ça montre la complexité qu'il peut y avoir parfois lorsque sa propre famille est menacée de mort. Si effectivement cette hypothèse était réelle, ça veut donc dire que les nazis parvenaient aussi parfois à leur fin en faisant en sorte que des personnes trahissent d'autres personnes de leur propre camp.
Élie Corchia, invité des Petits Matins d'RTL avec Dominique Tenza. Dans l'actualité ce matin, il y a aussi ce cri d'alarme d'une dizaine de compagnies aériennes américaines, dont American Airlines et Delta. Elles mettent en garde contre le chaos que pourrait créer le déploiement de la 5G autour des aéroports. Déploiement prévu pour demain. Elles redoutent notamment des perturbations sur les instruments de bord. Les sports. À l'Euro de handball, les Bleus se sont qualifiés pour le tour principal en battant la Serbie 29-25. Ils occupent la première place de leur groupe. Ils arrivent donc en position de force. Et puis en tennis, deuxième journée de l'Open d'Australie sans Djokovic. Richard Gasquet a éliminé un autre Français, Hugo Humbert. Mais c'est déjà fini pour Hugo Gaston, sorti par le 175e mondial. Chez les dames, Alizé Cornet s'est qualifiée pour le deuxième tour, mais pas Caroline Garcia.
Merci.